Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre une interview où un lycéen parle de la langue qu'il a choisi d'apprendre. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte, A, B, C ou D, pour chaque question, 1 à 8. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour Abdelilah.
Bonjour.
Tu es fontainois.
Oui.
Depuis quelques années, depuis 2005. Tu habites au quartier des Halles et tu es au lycée international d'Europol.
Oui.
Plus précisément, tu es au collège. Est-ce que tu peux me présenter comment fonctionne ce collège international?
En fait, il y a plusieurs sections dans différentes langues. On a de l'anglais, de l'espagnol, d'italien, de l'arabe, de l'allemand et du portugais. Et on va dans ce collège pour apprendre une langue.
Toi, tu es dans quelle section ?
La section arabe.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le programme par rapport à un collège classique ?
On nous apprend plus de la langue de section et de l'histoire géo dans la langue de section.
Et comment ça s'est passé donc, pour accéder à ce collège-là ?
D'abord, c'est des gens qui m'en ont parlé. Et puis ils m'ont dit qu'il fallait envoyer un dossier. Après, il faut passer un concours. Et sur tous ceux qui se présentent, ils en prennent un certain nombre. Parce qu'ils ne peuvent pas accueillir trop de monde au collège. Du coup, il y a une sélection par concours.
Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à t'inscrire à la section arabe ?
Vu que l'arabe, je l'apprenais déjà avant en primaire, à Fontaine. Et que je le parle un petit peu chez moi. Voilà.
Mais tu l'apprenais en primaire dans quelle école ? Comment ça se passait ?
À la base, à Natal France, on avait une personne qui nous apprenait la langue, c'est un professeur. Mais ça dépendait des consulats. Et là, c'était le consulat d'Algérie. Mais en fait, elle prenait des gens de toute nationalité qui voudraient apprendre l'arabe. Hein. Des Algériens, des Français, des Syriens, enfin... Et donc, c'était une à deux fois par semaine. Des fois, c'était entre midi et deux, ou le mercredi après-midi. Et le professeur faisait pas mal d'écoles dans Grenoble. Mais depuis que nous, on est partis, malheureusement, ça se fait plus trop à Fontaine. En tout cas, à Natal France, il n'y en a plus. Et dans les quelques écoles qui le faisaient, ça se fait plus. Ou alors plus beaucoup. Voilà. C'est dommage. Hein.
Pourquoi ?
C'est dommage parce que il y a des gens qui veulent apprendre l'arabe. Même des parents qui veulent l'enseigner à leurs enfants et tout. Donc c'est dommage. Hein. Ils ont raté quelque chose.
Alors, l'arabe qu'on parle à la maison et l'arabe qu'on apprend à l'école, c'est pas tout à fait le même arabe.
Non, c'est différent quand même. Il y a du dialecte, donc celui qu'on parle à la maison. Et après, il y a la langue écrite, qui est pas mal différente quand même.
Alors, est-ce que tu as des lectures en arabe aujourd'hui ?
On était en train de lire Al-Ayyam, donc Les Jours. Il existe en français. C'est de Taha Hussein. C'est son autobiographie. C'est ce qu'on étudie en ce moment en arabe.
Alors toi, à un niveau personnel, qu'est-ce que ça t'apporte d'apprendre l'arabe, l'arabe littéraire, d'avoir une partie de ta formation en arabe? Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu en espères pour l'avenir?
On n'apprend pas forcément que de la langue, on apprend pas mal de culture aussi. C'est vrai que la langue, il y a des fois où c'est un petit peu pénible, c'est un peu lourd, difficile. Mais par contre, il y a les lectures qui sont vraiment pas mal. C'est quand même plus sympa de les lire en arabe. Et puis même au niveau de la culture en général, c'est sympa.
Bonjour Abdelilah.
Bonjour.
Tu es fontainois.
Oui.
Depuis quelques années, depuis 2005. Tu habites au quartier des Alpes et tu es au lycée international d'Europol.
Oui.
Plus précisément, tu es au collège. Est-ce que tu peux me présenter comment fonctionne ce collège international ?
Ben, en fait, il y a plusieurs sections dans différentes langues. On a de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'arabe, de l'allemand et du portugais. Et on va dans ce collège pour apprendre une langue.
Toi, tu es dans quelle section ?
La section arabe.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le programme par rapport à un collège classique ?
Eh bien, on nous apprend plus de la langue de section et de l'histoire géo dans la langue de section.
Et comment ça s'est passé donc pour accéder à ce collège-là ?
Eh bien, d'abord, c'est des gens qui m'en ont parlé. Et puis, ils m'ont dit qu'il fallait envoyer un dossier. Après, il faut passer un concours. Et sur tous ceux qui se présentent, eh ben, ils en prennent un certain nombre. Parce qu'ils ne peuvent pas accueillir trop de monde au collège. Du coup, il y a une sélection par concours.
Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à t'inscrire à la section arabe ?
Vu que l'arabe, je l'apprenais déjà avant en primaire, à Fontaine. Et que je le parle un petit peu chez moi. Voilà.
Mais tu l'apprenais en primaire dans quelle école ? Comment ça se passait ?
À la base, à Natal France, on avait une personne qui nous apprenait la langue, c'est un professeur. Mais c'est, en fait, ça dépendait des consulats. Et là, c'était le consulat d'Algérie. Mais en fait, elle prenait des gens de toute nationalité qui voudraient apprendre l'arabe. Hein. Des Algériens, des Français, des Syriens, enfin... Et donc, c'était une à deux fois par semaine. Des fois, c'était entre midi et deux, ou le mercredi après-midi. Et le professeur, il faisait pas mal d'écoles dans Grenoble. Mais seulement, depuis que nous, on est partis, malheureusement, ça se fait plus trop à Fontaine. En tout cas, à Natal France, il n'y en a plus. Et dans les quelques écoles qui le faisaient, ça se fait plus. Ou alors plus beaucoup. Voilà. C'est dommage, hein.
Pourquoi ?
C'est dommage parce que y a des gens qui veulent apprendre l'arabe, même des parents qui veulent l'enseigner à leurs enfants et tout. Donc c'est dommage. Hein. Mm-hmm. Ils auront quelque chose.
Alors l'arabe qu'on parle à la maison et l'arabe qu'on apprend à l'école, c'est pas tout à fait le même arabe.
Non, c'est différent quand même. Il y a du dialecte, donc celui qu'on parle à la maison, et après il y a la langue écrite qui est pas mal différente quand même.
Mm-hmm. Alors est-ce que tu as des lectures en arabe aujourd'hui ?
On était en train de lire Al-Ayyam, donc Les Jours, il existe en français, hein. C'est de Taha Hussein, c'est son autobiographie. Et c'est ce qu'on étudie en ce moment en arabe.
Alors, toi, à un niveau personnel, qu'est-ce que ça t'apporte d'apprendre l'arabe, l'arabe littéraire, hein, d'avoir une partie de ta formation en arabe ? Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu en espères pour l'avenir ?
Déjà, on n'apprend pas forcément que de la langue, on apprend pas mal de culture aussi. C'est vrai que la langue, il y a des fois où c'est un petit peu pénible, c'est un peu lourd, difficile. Mais par contre, il y a les lectures qui sont vraiment pas mal. Et c'est quand même plus sympa de les lire en arabe. Et puis même au niveau de la culture en général, c'est sympa.
Exercice 2. Vous allez entendre une femme qui dirige une bibliothèque. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, complétez les phrases 1 à 8 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Donc, pour devenir conservateur de bibliothèque, comme pour tous les concours de cadre de la fonction publique, on doit passer un concours et avoir une année d'études, voire 18 mois, dans une école normale. C'est de ces concours que sont issus les magistrats, avec l'ENM, École nationale de magistrature, les professeurs, etc. La caricature de l'image des bibliothèques, c'est que tout le monde me dit « t'es bibliothécaire parce que t'aimes lire ». Ça suffit pas. Pour être conservateur de bibliothèque, il faut gérer certes des livres, une collection de livres, mais il faut aussi gérer un bâtiment et une équipe. Donc aujourd'hui, la bibliothèque que je dirige fait 3 500 m² et j'ai une équipe d'environ 40 agents. Aujourd'hui, ce qui a le plus changé dans notre métier, c'est que on ne fait plus une politique de l'offre, mais une politique de la demande. C'est-à-dire qu'avant, on constituait une collection, on essayait d'avoir des choses qui, pensait-on, plairaient à nos lecteurs. Aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que maintenant, on demande à nos lecteurs ce qu'ils veulent. C'est ce qui a complètement changé dans notre façon d'appréhender notre métier. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est la participation. D'ailleurs, la participation est incluse dans la loi française depuis 2013. Ça implique, en fait, qu'on ait une évolution qui est un peu synonyme à ce qui se passe en ce moment sur le web. On est passé du web 1 au web 2, où on ne se contente plus d'aller chercher des choses sur le web, de faire des recherches, mais où on peut participer à ce qui existe sur le web, par exemple comme ce qu'on fait sur Wikipédia. Donc la bibliothèque aujourd'hui, elle est devenue 2.0 aussi, c'est-à-dire qu'on doit intégrer des ouvrages numériques, on constitue des bibliothèques numériques, donc même si c'est aujourd'hui c'est encore compliqué parce que les éditeurs ne font pas des œuvres extrêmement importantes. Aujourd'hui, on pense qu'on a quelques milliers de livres qu'on peut intégrer dans une collection numérique, mais ce n'est pas assez. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est faire participer le lecteur. Donc maintenant, sur tous les portails numériques de bibliothèque, vous pouvez donner votre avis sur les livres que vous aimez, dire que vous venez d'emprunter un livre et qu'il vous a plu. Vous pouvez faire des suggestions. Moi, j'aimerais lire le dernier Tardi. Vous pouvez également imaginer des systèmes encore plus avancés où le lecteur, par exemple, pourrait participer à la constitution des listes de commandes de livres. Donc, par exemple, on dirait que les lecteurs, on leur donne 5% de notre budget, on fait des réunions avec eux. Donc là, ils sont plus seulement force de proposition, ils font partie intégrante de notre travail. Et moi, je pense qu'il faudrait aller encore plus loin parce que la bibliothèque, elle a une dimension sociale et qu'on est là pour qu'il y ait une intégration de tous les gens. Il ne faut pas qu'il y ait des gens, je dis toujours, qui restent sur la route. Tout le monde doit pouvoir emprunter des livres ou autre chose. Donc l'idée, c'est qu'on vienne à la bibliothèque parce qu'on a envie d'y être. Donc la bibliothèque, c'est devenu un troisième lieu entre la maison et le travail. C'est un lieu où l'école pour les enfants, c'est un lieu autre. En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les enfants, ils viennent à la bibliothèque plus seulement pour lire, mais pour rencontrer leurs copains, pour draguer, c'est vrai aussi, et pour faire plein d'autres choses. Donc maintenant, la bibliothèque, c'est devenu une bibliothèque comme un lieu social où on aime se retrouver. Donc, pour devenir conservateur de bibliothèque, comme pour tous les concours de cadre de la fonction publique, on doit passer un concours et avoir une année d'études, voire 18 mois, dans une école normale. C'est de ces concours que sont issus les magistrats, avec l'ENM, École nationale de magistrature, les professeurs, etc. La caricature de l'image des bibliothèques, c'est que tout le monde me dit « t'es bibliothécaire parce que t'aimes lire ». Ça suffit pas. Pour être conservateur de bibliothèque, il faut gérer certes des livres, une collection de livres, mais il faut aussi gérer un bâtiment et une équipe. Donc aujourd'hui, la bibliothèque que je dirige fait 3 500 m² et j'ai une équipe d'environ 40 agents. Aujourd'hui, ce qui a le plus changé dans notre métier, c'est que on ne fait plus une politique de l'offre, mais une politique de la demande. C'est-à-dire qu'avant, on constituait une collection, on essayait d'avoir des choses qui, pensait-on, plairait à nos lecteurs. Aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que maintenant, on demande à nos lecteurs ce qu'ils veulent. C'est ce qui a complètement changé dans notre façon d'appréhender notre métier. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est la participation. D'ailleurs, la participation est incluse dans la loi française depuis 2013. Ça implique, en fait, qu'on ait une évolution qui est un peu synonyme à ce qui se passe en ce moment sur le web. On est passé du web 1 au web 2, où on ne se contente plus d'aller chercher des choses sur le web, de faire des recherches, mais où on peut participer à ce qui existe sur le web, par exemple comme ce qu'on fait sur Wikipédia. Donc la bibliothèque aujourd'hui, elle est devenue 2.0 aussi, c'est-à-dire qu'on doit intégrer des ouvrages numériques, on constitue des bibliothèques numériques, donc même si c'est aujourd'hui c'est encore compliqué parce que les éditeurs ne font pas des œuvres extrêmement importantes, aujourd'hui on pense qu'on a quelques milliers de livres qu'on peut intégrer dans une collection numérique, mais ce n'est pas assez. Mais surtout ce qu'on veut, c'est faire participer le lecteur. Donc maintenant, sur tous les portails numériques de bibliothèque, vous pouvez donner votre avis sur les livres que vous aimez, dire que vous venez d'emprunter un livre et qu'il vous a plu. Vous pouvez faire des suggestions. Moi, j'aimerais lire le dernier Tardi. Vous pouvez également imaginer des systèmes encore plus avancés où le lecteur, par exemple, pourrait participer à la constitution des listes de commandes de livres. Donc, par exemple, on dirait que les lecteurs, on leur donne 5% de notre budget, on fait des réunions avec eux. Donc là, ils sont plus seulement force de proposition, ils font partie intégrante de notre travail. Et moi, je pense qu'il faudrait aller encore plus loin parce que la bibliothèque, elle a une dimension sociale et qu'on est là pour qu'il y ait une intégration de tous les gens. Il ne faut pas qu'il y ait des gens, je dis toujours, qui restent sur la route. Tout le monde doit pouvoir emprunter des livres ou autre chose. Donc l'idée, c'est qu'on vienne à la bibliothèque parce qu'on a envie d'y être. Donc la bibliothèque, c'est devenu un troisième lieu entre la maison et le travail. C'est un lieu où l'école pour les enfants, c'est un lieu autre. En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les enfants, ils viennent à la bibliothèque plus seulement pour lire, mais pour rencontrer leurs copains, pour draguer, c'est vrai aussi, et pour faire plein d'autres choses. Donc maintenant, la bibliothèque, c'est devenu une bibliothèque comme un lieu social où on aime se retrouver.
Exercice 3. Vous allez entendre une interview avec l'auteur d'un livre. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions 1 à 9 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Monde. Alors aujourd'hui, on a décidé de quitter le studio pour aller dans le hall d'un bel hôtel parisien, rejoindre Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Sébastien.
Alors Pierre, tu es journaliste et présentateur de télévision. Tu travailles depuis 3 ans pour Arte où tu animes différentes émissions culturelles, si je ne me trompe pas, Xenius, mais aussi Jazz d'Or et Métropolis, c'est ça ?
C'est bien ça.
Et si je suis ici avec toi aujourd'hui, c'est pas pour parler de ton activité professionnelle, mais de ta passion pour une ville, Berlin, où tu vis depuis 2006. Alors cette passion pour cette ville laboratoire, comme tu l'appelles, a abouti à l'écriture d'un guide Berlin l'essentiel paru aux éditions Nomades où tu fais découvrir aux lecteurs plus de 160 adresses incontournables, on y reviendra tout à l'heure. Alors avant que tu nous parles de ton guide, j'ai une première question. L'angoisse de la page blanche a-t-elle été plus forte que le stress devant une caméra de télévision ?
Bonne question. Non, mais avant de faire de la télévision, j'ai quand même fait de la presse écrite, donc la page blanche, je la connais. Et c'était, en écrivant ce guide, c'était plutôt l'angoisse de la sélection, parce qu'il fallait que je choisisse 160 adresses, mes 160 adresses préférées à Berlin. Et il a fallu choisir, c'était très difficile.
Beaucoup de voyageurs ont l'occasion de connaître le Berlin historique, ça on le connaît tous, voire le Berlin nocturne. Mais le Berlin de tous les jours, ça ressemble à quoi ?
Le Berlin de tous les jours, d'abord, en tant que Français, quand on arrive, c'est vide. Parce que c'est une ville qui est absolument énorme. Ça fait 9 fois Paris en superficie pour 3 millions d'habitants, alors que Paris en compte 10 millions en journée à peu près. Donc quand on arrive, on a l'impression, au milieu de ces grandes avenues tracées au couteau, d'être dans une ville qui est absolument vide, qui est très différente quand on y est l'été ou l'hiver. Ce sont vraiment deux villes différentes. En hiver, on a très froid, il y a beaucoup de vent, c'est l'impression qui domine. En été, c'est une ville verte, la nature, beaucoup de vélos, beaucoup de gens qui vivent à l'extérieur. Donc vraiment deux villes différentes. Voilà, en fait, il y a aussi deux villes, deux Berlins différents quand on regarde le Berlin tous les jours.
Alors, tu qualifies Berlin, comme je disais tout à l'heure, de ville laboratoire où tout change rapidement. Alors, comment as-tu fait pour sélectionner les 160 adresses de ton guide ?
Pour revenir un petit peu en arrière, ça fait 7 ans bientôt que je suis à Berlin. Donc 7 ans que je collectionne les bonnes adresses. J'ai fait un listing qui était, voilà, il y en a 160 dans le guide, j'en avais sans doute 500 au départ, des adresses que j'aimais. Je suis allé revoir celles que je n'avais pas vues depuis très longtemps. J'ai pris toutes les nouvelles adresses. J'ai découvert que des lieux que j'adorais avaient disparu, que d'autres dont je ne soupçonnais pas l'existence avaient été apparus à la place. Et voilà comment j'ai fait ma sélection. Mais c'est une sélection complètement subjective. J'ai eu aucune instruction de la maison d'édition. J'avais carte blanche surtout. J'avais 4 parties à remplir et j'ai vraiment décidé de ces adresses en me disant voilà, je veux donner mon carnet d'adresses à mon meilleur ami, à ma famille. Où est-ce que je les envoie quand ils arrivent à Berlin? Voilà.
Alors, la première partie du guide est consacrée principalement à la culture, avec notamment de nombreuses pages sur le célèbre mur de Berlin, hein, que tout le monde connaît. Et j'y ai trouvé, moi, monde. Alors aujourd'hui, on a décidé de quitter le studio pour aller dans le hall d'un bel hôtel parisien, rejoindre Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Sébastien.
Alors Pierre, tu es journaliste et présentateur de télévision. Tu travailles depuis 3 ans pour Arte où tu animes différentes émissions culturelles, si je ne me trompe pas, Xenius, mais aussi Jazz d'Or et Métropolis, c'est ça ?
C'est bien ça.
Et si je suis ici avec toi aujourd'hui, c'est pas pour parler de ton activité professionnelle, mais de ta passion pour une ville, Berlin, où tu vis depuis 2006. Alors cette passion pour cette ville laboratoire, comme tu l'appelles, a abouti à l'écriture d'un guide, Berlin l'essentiel, paru aux éditions Nomades, où tu fais découvrir aux lecteurs plus de 160 adresses incontournables, on y reviendra tout à l'heure. Alors avant que tu nous parles de ton guide, j'ai une première question. L'angoisse de la page blanche a-t-elle été plus forte que le stress devant une caméra de télévision ?
Bonne question. Non, mais avant de faire de la télévision, j'ai quand même fait de la presse écrite, donc la page blanche, je la connais. Et c'était, en écrivant ce guide, c'était plutôt l'angoisse de la sélection, parce qu'il fallait que je choisisse 160 adresses, mes 160 adresses préférées à Berlin. Et il a fallu choisir, c'était très difficile.
Beaucoup de voyageurs ont l'occasion de connaître le Berlin historique, ça on le connaît tous, voire le Berlin nocturne. Mais le Berlin de tous les jours, ça ressemble à quoi ?
Le Berlin de tous les jours, d'abord, en tant que Français, quand on arrive, c'est vide. Parce que c'est une ville qui est absolument énorme. Ça fait 9 fois Paris en superficie pour 3 millions d'habitants, alors que Paris en compte 10 millions en journée à peu près. Donc quand on arrive, on a l'impression, au milieu de ces grandes avenues tracées au couteau, d'être dans une ville qui est absolument vide, qui est très différente quand on y est l'été ou l'hiver. Ce sont vraiment deux villes différentes. En hiver, on a très froid, il y a beaucoup de vent, c'est l'impression qui domine. En été, c'est une ville verte, la nature, beaucoup de vélos, beaucoup de gens qui vivent à l'extérieur. Donc vraiment deux villes différentes. Voilà, en fait, il y a aussi deux villes, deux Berlins différents quand on regarde le Berlin tous les jours.
Alors, tu qualifies Berlin, comme je disais tout à l'heure, de ville laboratoire où tout change rapidement. Alors, comment as-tu fait pour sélectionner les 160 adresses de ton guide ?
Pour revenir un petit peu en arrière, ça fait 7 ans bientôt que je suis à Berlin. Donc 7 ans que je collectionne les bonnes adresses. J'ai fait un listing qui était, voilà, il y en a 160 dans le guide. J'en avais sans doute 500 au départ, des adresses que j'aimais. Je suis allé revoir celles que je n'avais pas vues depuis très longtemps. J'ai pris toutes les nouvelles adresses. J'ai découvert que des lieux que j'adorais avaient disparu, que d'autres dont je ne soupçonnais pas l'existence avaient été apparus à la place. Et voilà comment j'ai fait ma sélection. Mais c'est une sélection complètement subjective. J'ai eu aucune instruction de la maison d'édition. J'avais carte blanche surtout. J'avais quatre parties à remplir. Et j'ai vraiment décidé de ces adresses en me disant, voilà, je veux donner mon carnet d'adresses à mon meilleur ami, à ma famille. Où est-ce que je les envoie quand ils arrivent à Berlin? Voilà.
Alors, la première partie du guide est consacrée principalement à la culture, avec notamment de nombreuses pages sur le célèbre mur de Berlin, hein, que tout le monde connaît. Et j'y ai trouvé, moi,
Exercice 4. Vous allez entendre Mathieu parler de son plaisir à écrire. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous, puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à K pour compléter les phrases 1 à 8. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, et donner un exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Alors, j'ai toujours aimé écrire. Déjà, je me souviens à l'école primaire, en cours de français, quand on avait des expressions écrites, j'aimais bien me servir de mon imagination, inventer des histoires, tout ça. Et puis, après, on passe de moins en moins de temps à s'occuper avec ces choses-là. Mais j'écris toujours beaucoup aujourd'hui, surtout à la main, bon, dans l'ère de l'informatique. Moi, j'aime bien me servir de mon stylo. J'ai un journal dans lequel j'écris pas tous les jours, mais j'écris quand même assez régulièrement dedans. Bon, je raconte ce que je fais, je raconte ce que j'ai envie de faire, je parle un peu de ma vie. En plus de ça, j'ai des amis qui sont assez à l'ancienne, on va dire. Ben, maintenant, j'habite à l'étranger, j'ai beaucoup de mes amis qui sont restés en France. J'ai beaucoup de mes bons amis qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas accès à Internet. Et du coup, je me retrouve à écrire pas mal de lettres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, c'est sûr que j'aime bien envoyer des mails pour prendre des nouvelles ou pour recevoir des nouvelles de mes amis qui sont un peu partout. Mais ça fait quand même une impression, ça fait un sentiment différent. Voilà, quand on reçoit une lettre, c'est une surprise et c'est quelque chose pour lequel on est vraiment content. C'est pour ça aussi que j'aime bien, moi, prendre le temps d'écrire des vraies lettres à mes amis. En plus de ça, ça c'est quelque chose que j'ai commencé récemment. Ça fait pas très longtemps, mais avec une amie à moi, donc qui est actrice, qui a l'habitude de travailler avec le texte et les choses comme ça. Elle s'inscrit, elle participe à des soirées poésie, à des soirées texte, des choses comme ça. Et puis, elle a même, avec une amie à elle, commencé à organiser ses propres soirées, qui s'appelait, ça s'appelait Rhythm and Rhyme, enfin, rythme et rime. Et donc, pour ces soirées-là, j'ai commencé, bon, d'abord à lire des textes que j'avais déjà écrits, en général dans une langue qui n'était pas comprise par le public, parce que ça me gênait un peu. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écrire des textes spécifiquement pour ces événements donc qu'organisait mon ami. Et après, c'est vrai que ça a commencé à s'ouvrir. On a commencé à participer à d'autres événements dans des cafés, dans des bars ou même dans des petits théâtres, des soirées ouvertes où chacun peut venir et lire un peu ses textes. Et donc, pour ces événements-là, moi, j'essaie d'écrire des textes un peu amusants, des textes très très légers, pas de thème sérieux. Je préfère parler de choses amusantes, mais quand même des choses qui peuvent emmener le public à réfléchir sur certains sujets. Moi j'essaie simplement de prendre une approche différente pour parler de choses qui peuvent être sérieuses, mais je préfère faire ça de manière humoristique. Et en contrepartie, mon amie, elle, au contraire, elle est très, très émotive, il y a beaucoup d'âme, beaucoup de passion dans ses textes, et c'est aussi quelque chose qui plaît beaucoup au public, et ça marche vraiment bien. On est une bonne équipe pour divertir le public. Du moins, je l'espère. Alors, j'ai toujours aimé écrire. Déjà, je me souviens à l'école primaire, en cours de français, quand on avait des expressions écrites, j'aimais bien me servir de mon imagination, inventer des histoires, tout ça. Et puis, après, on passe de moins en moins de temps à s'occuper avec ces choses-là. Mais j'écris toujours beaucoup aujourd'hui, surtout à la main, dans l'ère de l'informatique, et moi j'aime bien me servir de mon stylo. J'ai un journal dans lequel j'écris pas tous les jours, mais j'écris quand même assez régulièrement dedans. Je raconte ce que je fais, je raconte ce que j'ai envie de faire, je parle un peu de ma vie. En plus de ça, j'ai des amis qui sont assez à l'ancienne, on va dire. Maintenant, j'habite à l'étranger, j'ai beaucoup de mes amis qui sont restés en France. J'ai beaucoup de mes bons amis qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas accès à Internet. Et du coup, je me retrouve à écrire pas mal de lettres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est sûr que j'aime bien envoyer des mails pour prendre des nouvelles ou pour recevoir des nouvelles de mes amis qui sont un peu partout. Mais ça fait quand même une impression, ça fait un sentiment différent. Voilà, quand on reçoit une lettre, c'est une surprise et c'est quelque chose pour lequel on est vraiment content. C'est pour ça aussi que j'aime bien, moi, prendre le temps d'écrire des vraies lettres à mes amis. En plus de ça c'est quelque chose que j'ai commencé récemment. Ça fait pas très longtemps, mais avec une amie à moi donc qui est actrice, qui a l'habitude de travailler avec le texte et les choses comme ça. Elle s'inscrit, elle participe à des soirées poésie, à des soirées texte, des choses comme ça. Et puis elle a même, avec une amie à elle, commencé à organiser ses propres soirées, qui s'appelait Rhythm and Rhyme, enfin rythme et rime. Et donc, pour ces soirées-là, j'ai commencé, d'abord à lire des textes que j'avais déjà écrits, en général dans une langue qui n'était pas comprise par le public, parce que ça me gênait un peu. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à écrire des textes spécifiquement pour ces événements donc qu'organisait mon ami. Et après, c'est vrai que ça a commencé à s'ouvrir. On a commencé à participer à d'autres événements dans des cafés, dans des bars ou même dans des petits théâtres, des soirées ouvertes où chacun peut venir et lire un peu ses textes. Et donc, pour ces événements-là, moi, j'essaie d'écrire des textes un peu amusants, des textes très très légers, pas de thème sérieux. Je préfère parler de choses amusantes, mais quand même des choses qui peuvent emmener le public à réfléchir sur certains sujets. Voilà, ouais, moi j'essaie simplement de prendre une approche différente pour parler de choses qui peuvent être sérieuses, mais je préfère faire ça de manière humoristique. Et en contrepartie, mon amie, elle, au contraire, elle est très, très émotive, très, elle met, voilà, il y a beaucoup d'âme, beaucoup de passion dans ses textes, et c'est aussi quelque chose qui plaît beaucoup au public, et ça marche vraiment bien. On est une bonne équipe pour divertir le public. Du moins, je l'espère.
C'est la fin du test de compréhension orale.